הוא היה אומר, מרבה בשר, מרבה רימה, מרבה נכסים, מרבה דאגה, מרבה נשים, מרבה כספים, מרבה שפחוס, מרבה זימה, מרבה עבדים, מרבה גזל, מרבה תורה, מרבה חיים, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה, מרבה עצה, מרבה תבונה, מרבה צדקה, מרבה שלום. קנה שם טוב, קנה לעצמו, קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי עולם הבא. Nous avons ici, dans cette Mishnah, beaucoup d'enseignements. Il nous disait, Rabban Gamliel, que celui qui multiplie la consommation de viande, il multiplie la vermine. Celui qui multiplie les biens, qui multiplie les biens immobiliers et qui agrandit sa fortune, il multiplie de la même manière les soucis. Celui qui multiplie les femmes, qui prend beaucoup de femmes, il multiplie également la sorcellerie. Celui qui multiplie les servantes, il amène beaucoup de servantes chez lui, il agrandira la débauche. Enfin, celui qui multiplie chez lui le nombre de servants, de même, il multipliera le vol. Celui qui, par opposition, multipliera son étude de la Torah, ne cessera d'accroître l'étude de la Torah, il accroîtra ses jours de vie. Celui qui multiplie la yeshiva, c'est-à-dire qui s'assoit pour étudier, il accroîtra parallèlement la sagesse. Celui qui multiplie la etza, le conseil, c'est-à-dire qui demande conseil à tout le monde, il accroîtra également l'intelligence, la perspicacité qui est la sienne. Celui enfin qui multiplie la tzedaka, qui multiplie la charité, qui donne aux autres, il multipliera le shalom. Enfin, celui qui a réussi à acquérir une bonne réputation, cette réputation-là, il l'acquérira pour lui-même. Celui qui a réussi à acquérir les divrei Torah, les paroles de la Torah, celui qui réussit à acquérir de la Torah, il acquérira également le monde futur. Nous avons donc au départ le mot marbé, multiplie, qui revient dans un sens positif comme dans un sens négatif. Reprenons par exemple le premier enseignement. Celui qui multiplie la bassar, la viande, c'est-à-dire qui mange énormément de viande, il multipliera également la vermine. C'était donc le premier enseignement. De quelle vermine parle-t-on ici? Alors les commentateurs nous disent que l'on parle de la vermine qui mangera notre viande, qui mangera là notre chair une fois que l'on sera mort, que l'on sera dans la tombe. Alors on pourrait bien se demander quel est le sens finalement de cet enseignement, parce qu'une fois qu'on est mort, n'est-ce pas qu'on n'est plus dans le monde-ci, que la vermine mange notre chair ou qu'elle ne la mange pas, apparemment, on pourrait dire que ça nous laisse indifférents. On a déjà beaucoup de soucis en cette vie. Ce qui advient de notre corps après la vie, disons que c'est déjà un souci beaucoup moindre. En vérité, les commentateurs nous disent que non. On n'est pas indifférent au fait que la vermine, après notre mort, vient manger notre corps, même lorsque celui-ci est déjà enterré sous terre. La Gemara dans Shabbat illustre ça en nous disant que lorsque la vermine dévore, lorsque des vers de terre dévorent notre corps, cela est dur pour nous, comme si on nous piquait avec une aiguille. Ah, et puis évidemment, on pourrait quand même s'étonner ici, puisque le mort en vérité, apparemment, du moins c'est comme ça qu'il semble être, ne sent rien. Donc ça veut dire quoi? Que les vers qui dévorent, n'est-ce pas, notre chair, notre corps après la mort, c'est comme s'il nous piquait, on ressent ça comme si on nous piquait avec une aiguille. Alors ici, il y a deux explications que j'aimerais ramener, deux explications complètement différentes d'ailleurs, qui sont divergentes. La première, c'est l'explication de Rav David Azoulay, qui dit que même après la mort, l'âme ne quitte pas complètement le corps, du moins pas immédiatement. Et donc, c'est pour cela qu'il reste encore un petit peu de vie dans ce corps, même lorsque celui-ci est enterré, non plus avec toutes les fonctions biologiques qu'il avait lorsque l'on vivait encore, mais il reste encore quelque chose. Et c'est encore quelque chose qui, de vie qui reste dans le corps, même lorsqu'il est déjà sous terre, alors fait qu'on a encore une certaine sensibilité. Et lorsque la vermine vient nous manger, alors on le ressent comme si on était piqué par une aiguille. Le Tosefet Yom Tov et le Sefer Hasidim donnent eux une explication complètement divergente. Ils disent qu'une fois qu'on est mort, on est mort. Ça veut dire quoi? C'est qu'on ne sent plus, notre corps ne sent effectivement plus rien. Alors en quoi donc la vermine qui dévore ce corps peut nous faire mal? En vérité, nous disent le Tosefet Yom Tov et nous disent le Sefer Hasidim que cela ne fait pas mal à notre corps mais à notre Neshama. Cette Neshama qui a quitté notre corps et qui voit ce corps dans lequel elle a été pendant des années dévorée par la vermine, ça lui fait mal. Ça lui donne une douleur très très forte et cela ressemble à une aiguille que l'on rentre dans la chair vive. Bien qu'ici il ne s'agisse que de la neshama, il ne s'agit que de l'âme. L'âme a énormément de mal à assister à ce spectacle, n'est-ce pas, du corps dans lequel elle a été pendant des décennies, même pendant 120 ans, tout à coup dévorée par la vermine. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Quel est le message de cela? Eh bien, nous dit le Rabbeinu Yona, nous dit ici, il y a un message très simple. Un message extrêmement simple. C'est nous dire que tout excès de matière, tout excès de désir matériel, lorsque l'on donne trop satisfaction à nos désirs matériels, à la fin, cela nous est néfaste. Tout excès de matière est négatif pour l'homme. Et c'est le premier exemple que l'on donne ici. On peut penser que quelqu'un qui mange trop de viande, n'est-ce pas, aura certainement de cela beaucoup de jouissance et que cette jouissance est en soi positive. Vient nous dire nos commentateurs que non, cette jouissance, elle est négative. Manger de la viande de manière normale pour se porter bari, pour être sain, hein, c'est certainement pas une navirée, c'est même une mitzvah. On doit manger, on doit pas, on est très loin ici de l'ascétisme que l'on retrouve dans toutes sortes de religions. Plus on fait du mal à notre corps, plus on l'endommage, alors mieux certaines gens se portent. Nous on est loin de tout ça, on n'accepte absolument pas des choses comme ça. On dit même au contraire que celui qui ne mange pas assez, c'est quelqu'un qui commet une très grande faute. On doit manger, on doit entretenir notre corps. Mais lorsqu'il y a un excès, cela devient très négatif. Et la jouissance qu'on a sur le moment n'est en vérité qu'apparente parce que cette jouissance-là deviendra après une souffrance. Parce que cette chair que j'ai fait grandir par le fait que j'ai mangé trop de viande, à la fin elle sera mangée par la vermine et mon âme, ma neshama, ne pourra pas supporter ce spectacle. Donc finalement, on en revient à cette chose-là, tout excès de matière, tout excès de biens matériels, tout excès de confort matériel est négatif. Et c'est également le sens de l'enseignement suivant. Qu'est-ce que nous dit l'enseignement suivant? Que celui qui multiplie les biens matériels, n'est-ce pas, il multipliera le souci. Là encore, que souhaite tout homme, si ce n'est dans ce monde-ci, que la fortune? La fortune est souvent le souhait le plus grand qu'un homme puisse avoir dans sa vie. On voit combien de gens sont prêts à sacrifier, à risquer leur vie pour avoir un peu plus de fortune, et même beaucoup plus. Et que nous dit la Mishnah? Elle nous dit finalement qu'on sacrifie notre vie pour rien. Parce que plus on aura des biens, ce qui apparemment, là encore, nous procure une jouissance, plus on aura également des soucis. Parce que des biens, ça s'entretient, il faut les conserver, il faut les garder, il faut surveiller leur valeur. Et il nous dit finalement, Rav David Azoulay nous dit finalement que si on fait un bilan, qu'on tire un bilan, eh bien on verra que la somme des soucis que l'on aura du fait que l'on doit entretenir nos biens, les surveiller, veiller à ne pas se faire voler, cette somme de soucis, elle sera infiniment supérieure à la jouissance que l'on pourra avoir de ces biens-là. Les autres enseignements vont également dans le même sens. Celui qui multiplie le nombre de femmes, il amène avec lui la sorcellerie, multipliera la sorcellerie. Celui, effectivement, qui a les moyens et qui voudrait, par exemple, il y avait un moment, n'est-ce pas, aujourd'hui, bon, on sait que la Torah peut permettre à un homme, effectivement, de se marier avec plusieurs femmes. Chez les Ashkenazim, il y a ce que l'on appelle la Takana de Rabbeinu Gershon, qui fait que les rabbins nous ont interdit, depuis l'époque de Rabbeinu Gershon, en tout cas, on interdit aux Ashkenazim de marier plusieurs femmes, bien que, mais même avant que cela soit interdit, et même pour ceux pour lesquels ça reste permis, c'est-à-dire pour les Sfaradim qui ne sont pas concernés par la Takana de Rabbeinu Gershom et à qui effectivement la Torah permet d'épouser plusieurs femmes, de toute façon, le Pirkei Avot le déconseille fermement. Parce qu'il dit, plus tu auras de femmes chez toi, plus tu introduiras la sorcellerie à la maison. Cela pourquoi? Parce qu'il dit pour une raison très simple, que chaque femme se disputera l'intention du mari, elle voudra avoir l'attention du mari au détriment de l'autre, et finalement, et elle souffrira tellement de l'attention accordée à l'autre femme, à sa concubine, qu'elle sera prête à tout faire, pour éviter, n'est-ce pas, pour éviter que sa concubine la supplante. Cela évidemment amènera la haine, cela amènera toutes sortes de combines, et cela l'amènera jusqu'à la sorcellerie. Ça veut dire qu'une femme sera prête à tout faire pour être avec son mari au dépens de l'autre, que ce soit elle qui puisse, par exemple, disposer cette semaine de son mari et pas l'autre, elle sera prête à tout et elle en viendra jusqu'à la sorcellerie. Alors, finalement, là encore, le Pirkei Avot nous montre quelles sont les apparences et quelle est la réalité. L'apparence, c'est que plus j'ai de femmes, plus j'ai d'enfants, plus ma maison grandit. Et que nous dit le Pirkei Avot? Il nous dit exactement le contraire. Lorsque tu auras beaucoup de femmes, tu amèneras la sorcellerie chez toi et au lieu de construire ta maison, eh bien, tu vas la détruire. Là encore, le Pirkei Avot nous montre un exemple, une illustration, combien l'excès de matériel, l'excès de matière, le fait de vouloir avoir plus de femmes, n'est-ce pas, l'excès de jouissance, combien finalement il est négatif. C'est-à-dire que la jouissance qui nous procure, elle est de courte durée, elle est apparente, mais à la fin du temps, à la fin, on y perd. Même chose pour le reste. Un homme qui a beaucoup de biens, et puis ensuite il se marie avec beaucoup de femmes, eh bien, il doit avoir beaucoup de servants, beaucoup de servantes. Alors, certainement, combien de gens, n'est-ce pas, ils bossent toute la journée chez eux à la maison, ils n'ont pas de femme de ménage, ils n'ont pas de ci, ils n'ont pas de ça, je ne dis pas de pas prendre de femme de ménage. Loin de là, si on a la possibilité, pourquoi pas, mais ils ressentent le fait qu'ils n'ont pas de gens pour le servir comme une sorte de manque. Effectivement, il faut être tout à la maison, préparer les repas, après s'occuper des enfants. On n'a personne pour nous aider. Évidemment qu'avoir une femme de ménage dans ce cas-là, c'est certainement un grand intérêt, et même peut-être deux. Mais à ce moment-là, on a l'impression, et même pas nécessairement à ce moment-là, que plus on a de servants et plus on a de servantes, mieux c'est, mieux on se porte, moins on a à faire. Là encore, excès de matière. Que nous dit le Pirkei Avot? Que la multiplication de servants ou de servantes, ça amène des ennuis. Avoir un nombre limité de servants ou de servantes, ça peut nous aider. Ça aidera certainement la femme qui bosse toute la journée à la maison lorsqu'elle est, ou alors quand elle rentre de son travail. Ça pourrait également soulager le mari. Mais quand ça devient à l'excès, alors c'est le contraire qui va se passer. Ça amène des ennuis. Les servantes, ça amène la débauche. Et nous dit, je crois, Rav David Azoulay, que la débauche, y compris des fois avec le maître de maison, et non et en plus de la avéra d'être avec sa servante commencera à le dominer et à lui prendre tout son argent, elle commencera à lui faire du chantage. Tout ça, c'est des choses qui arrivent dans des trop grandes maisons où il y a trop de serviteurs. Quant au serviteur, qu'est-ce que lui, il amène? Le vol. Il n'hésitera pas à voler un petit peu ici, il n'hésitera pas à voler un petit peu là. Donc, là encore, le confort apparent tourne au désastre. Donc, quel est l'enseignement de tout cela? C'est que tout excès de matière n'est pas bon. Nous dit le Maharam Shik que nous avons là ici une preuve. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le monde? Lorsqu'on est plongé dans ce monde-ci avec les désirs, les passions, on a l'impression que finalement, le monde a été créé pour que l'on puisse en jouir. En vérité, c'est vrai, mais Akadosh Baruch Hu, qui est entièrement amour, a créé le monde pour que l'on en jouisse, pour que l'on en profite. Mais quel est le vrai profit? Si l'on se réfère à la matière et uniquement à la matière, alors on voit qu'on n'en tire pas profit, loin de là. Et même si parfois on en tire profit, très souvent ce n'est pas vrai. Dès que ça tourne à l'excès, ça n'est plus vrai. C'est même, comme on vient de démontrer, la catastrophe. Donc finalement, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde? Quel est le but de la création? Évidemment, pour qu'on puisse en jouir, parce que Kadosh Baruch Hu nous aime, il nous a créés par amour. Mais cette jouissance ne peut être vraie que si l'on se tourne vers le spirituel. Même le tout excès, on pourrait dire entre guillemets, en vérité ce n'est pas un excès, mais tout excès de spirituel, lui, n'apportera jamais de dommages, n'apportera jamais de nuisances. Au contraire, plus on va dans le spirituel, plus on l'accroît chez nous, plus au contraire on jouira, plus au contraire on aura du plaisir, plus au contraire on sera dans le bonheur. Et donc, c'est pour les biens spirituels, nous dit le Maharam Shik, c'est là la preuve la plus simple, n'est-ce pas, que finalement, si Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est pour le spirituel et pas pour le matériel. Non pas, encore une fois, que l'on doive nier le matériel, que l'on doive aller vers l'ascétisme, que l'on doit faire souffrir son corps. Rien n'est plus éloigné de la Torah que de telles dispositions, et je crois que nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Mais le matériel, ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est qu'un moyen. C'est un moyen pour nous servir, pour qu'on puisse progresser dans le spirituel. Et tout excès de matériel, finalement, nous fait dériver du but premier et nous fait plonger dans le malheur. Le spirituel, c'est le contraire. Il nous fait progresser dans le bonheur, il nous fait progresser dans la jouissance et dans la jouissance authentique. À condition, bien entendu, de savoir qu'est-ce que c'est le spirituel. Qu'est-ce qu'on appelle finalement le spirituel? Évidemment, le spirituel chez nous, le spirituel dans le judaïsme, n'a rien à voir avec la mystique que l'on peut retrouver dans d'autres religions ou chez toutes sortes de personnes pas très équilibrées. Le spirituel, c'est d'abord la Torah. C'est la Torah. Et qu'est-ce que c'est la Torah? Qu'est-ce que c'est la Torah? Eh bien, comment peut-on définir la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée? Eh bien, là encore, nos sages nous donnent une définition que l'on peut retrouver également dans ce Pirkei Avot. La Torah, c'est la Chochma, c'est la sagesse par excellence, c'est la sagesse divine. Nous dit le Maharal, il existe une très très grande différence entre la Torah et toutes les autres sagesses. Toutes les autres sagesses sont sorties après la création du monde. Une fois que le monde a créé, viennent les grands sages, les philosophes, les scientifiques, et essayent d'analyser la matière. La Torah, elle, nous dit le Midrash, a été créée 2000 ans avant la matière. 2000 ans avant la matière. C'est donc la seule sagesse de toutes les sagesses que l'on peut trouver dans le monde qui a été créée avant la matière, qui précède la matière. Elle n'est donc pas une copie de la matière. C'est au contraire la matière qui est non pas une copie, mais qui a été créée selon les règles de la Torah. Akadosh Baruch Hu a regardé la Torah pour créer le monde. Il aurait bien pu, et bien évidemment, qu'Akadosh Baruch Hu aurait pu créer le monde sans regarder la Torah. Mais il a d'abord créé la Torah, il a voulu la lire et la regarder pour créer ensuite le monde d'après la Torah. Évidemment, cela nous donne une illustration de combien la Torah est une sagesse au-dessus de toutes les autres. C'est la sagesse du monde. C'est la sagesse qui précède le monde et c'est la sagesse à laquelle on doit se référer si on veut comprendre le monde. Alors cela ne fait pas seulement de la Torah une sagesse beaucoup plus grande que les autres. Cela fait de la Torah une sagesse authentique. La seule sagesse qui puisse être dans le monde. Toutes les autres sagesses ne sont que de pâles imitations par rapport en comparaison à la Torah. Et donc, on retombe donc dans cette définition. Qu'est-ce que c'est la Torah? Une sagesse, mais pas seulement une sagesse, la sagesse par excellence. Et cela va nous permettre de comprendre la suite du Pirkei Avot. Jusque-là, on était dans le négatif. Celui qui mange trop de viande, il aura beaucoup de... Ce qui multiplie la viande, il multipliera vermine. Multiplie les biens ou les biens matériels, multiplie les soucis. Ici, c'est exactement le contraire. Dès qu'on parle de la Torah, dès qu'on parle de la sagesse, alors plus on multiplie, plus on est dans le positif. Et c'est cela l'enseignement suivant du Pirkei Avot. Marbe Torah, marbe chayim. Multiplie la Torah, multiplie la vie. Plus on est dans la Torah, plus on est dans la vie. Alors ça veut dire quoi multiplier la Torah? Ça veut dire quoi multiplier la Torah? Eh bien c'est tout simplement, il n'y a pas 36 moyens de multiplier la Torah. Multiplier la Torah, c'est multiplier son étude. Plus on étudie la Torah, plus Akadosh Baruch Hu nous garde, plus Akadosh Baruch Hu nous conserve et plus on vivra longtemps. C'est un pasouk dans la Torah, c'est un pasouk qui est ramené. Ki icha yecha ve'orech yemecha. La Torah, c'est ta vie et c'est aussi ta longitude. C'est aussi ta longitude. C'est-à-dire, elle te permet, c'est la clé pour que tu puisses avoir une longue vie. Et plus tu étudieras la Torah, plus tu vivras longtemps. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a des gens qui n'étudient pas la Torah, et puis ils vivent très longtemps, ils deviennent presque des centenaires. D'autres qui étudient la Torah et qu'ils meurent jeunes. Évidemment, on peut tout voir dans la vie, mais il faut comprendre que cela ne remet rien en cause la règle qu'on vient de dire. Parce que chacun a au départ un certain nombre d'années qui lui sont données. Certains sont programmés dans ce monde-ci pour vivre longtemps, d'autres moins. C'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre la règle qu'on vient de donner. C'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, est programmé pour ne pas vivre longtemps, plus il étudiera la Torah, ben plus il vivra longtemps. Il vivra longtemps plus que ce qui lui a été programmé pour lui. L'inverse, c'est pour que celui qui n'étudie pas la Torah, il avait été programmé pour 100 ans, il vivra certainement moins. Alors nous, on aurait l'impression que finalement, il vivra plus que l'autre, mais en vérité, par rapport à la programmation qui était la sienne, il vivra moins de temps. En d'autres termes, il n'y a pas de meilleur garant pour vivre longtemps que l'étude de la Torah. L'exemple qui est donné, que l'on retrouve dans plusieurs Gemarot, dans la Gemara Mot Katan, dans la Gemara Rosh Hashanah, dans la Gemara Yevamot, c'est l'exemple de Élie. On sait que toute la descendance de Élie avait de gros problèmes. Il ne vivait pas au-dessus de 18 ans. Sont venus deux sages de l'époque de la Gemara, Rabba et Abaye, ils disent « Toute notre famille meurt à 18 ans, nos parents, nos cousins, c'est la catastrophe. » Alors ils sont venus devant quelqu'un, je ne sais plus son nom, et en tout cas devant un autre sage de l'époque de la Gemara, qui leur dit « Peut-être que vous descendez de la maison de Élie. » C'est des gens qui n'ont pas de chance, qui meurent à l'âge de 18 ans. Ils ont vérifié, ils se sont rendus compte que c'était exact, qu'ils étaient descendants de Élie. Et donc qu'ils étaient programmés pour vivre 18 ans dans ce monde, pas plus. Quel est ça? Le gadol, le grand, eux-mêmes c'était des grands. En tout cas, quel est ça le grand de la Torah devant lequel ils étaient venus prendre conseil? Quel est ça? Quel conseil il leur a donné? Eh bien, un conseil très simple. Il leur a dit, si vous voulez dépasser les 18 ans, il n'y a qu'un seul moyen. Qu'un seul moyen, c'est d'étudier la Torah. Si en plus vous faites du chesed et des mitzvot, etc., ça rajoutera encore plus. Mais il y a une voie inéluctable, inévitable pour vivre plus et sortir, n'est-ce pas, de cette condamnation terrible qui est de mourir à l'âge de 18 ans. La seule voie, c'est l'étude de la Torah. Alors, Rabba et Abaye se sont mis à étudier tous les deux. L'un a étudié la Torah, il a réussi à vivre jusqu'à 40 ans au lieu de 18 ans. Et l'autre a étudié la Torah et en plus a fait du chesed dans une très grande mesure. Il a vécu jusqu'à 60 ans. La Torah amène la vie. Nous dit la Gemara dans Sanhedrin, juste pour terminer cela, que la raison pour laquelle la Torah nous amène la vie, parce que la Torah, c'est le seul moyen de lutter contre le Yetzerara. Et le Yetzerara, c'est ce qui a amené la mort. Je veux dire ici, je fais ici allusion à l'arbre. La pomme que Adam a mangée. Avant de faire la faute de manger la pomme, Adam ainsi que sa femme étaient éternels. Ils ne devaient pas mourir. Ils ont mangé la pomme. Ils ont amené sur eux et sur toute leur descendance la mortalité. C'est donc la faute qui vient de notre Yetzer Hara, de notre mauvais penchant, qui a amené la mort sur l'humanité. Le seul moyen de réparer cette faute, c'est d'abord par l'étude de la Torah. Quand on étudie la Torah, on répare cette faute et donc à ce moment-là, on éloigne, chacun selon ses données, le spectre de la mort. Ici donc, la Mishnah continue dans les choses positives. Marbe yeshiva, marbe chokhma. Celui qui s'assoit beaucoup, plus il s'assoit, plus il augmentera la sagesse, plus il accroîtra la sagesse. On parle ici de celui qui s'assoit dans une yeshiva, le mot ressemble, ou pas nécessairement dans une yeshiva, mais qui s'assoit et puis qui étudie avec des gens autour de lui, parce que forcément, en étudiant, n'est-ce pas, on commence à parler à son chaver, à son camarade, à son rave, à ci et ça. Donc, et ce pilpoul, cette étude de la Torah que l'on fera avec les autres, qui est illustrée ici par le mot yeshiva, nous amènera, bien entendu, beaucoup de sagesse, la sagesse de la Torah, la sagesse par excellence. Nous dit ensuite, donc, le Pirkei Avot, marbe etza, marbe chokhma, celui qui plus il demandera conseil aux gens, plus il deviendra intelligent. Bon, ça c'est la traduction un petit peu littérale. Cela, bien entendu, demande une explication que nous allons donner. Plus on demande de conseils, on a un problème, on ne sait pas tellement comment le résoudre, ou très souvent, ce qui est encore pire, on croit qu'on sait comment le résoudre, et donc on pense que tout va bien, puis très souvent, on s'aperçoit qu'on se trompe. L'un des moyens, n'est-ce pas, d'éviter que l'on se trompe, c'est de demander conseil autour de nous. Alors évidemment, si on peut demander conseil à un grand rav, c'est le mieux. Mais ici, le Pirkei Avot nous dit que si on n'a pas de grand rav à qui demander conseil, alors on peut demander conseil aux gens ordinaires qui sont autour de nous, à nos voisins, à nos proches, évidemment pas à n'importe qui, il faut un petit peu sélectionner quand même, mais en tout cas on ne doit pas hésiter à demander des conseils même à des gens ordinaires. Nous dit ici Raphaïm de Vologine quelque chose de très important. On a finalement l'impression que ça ne sert à rien de demander à des gens ordinaires. Pourquoi ? Il y a en vérité une bonne raison pourquoi. Il y a une personne qui réellement a un problème. Elle a un problème, comme tout le monde dans la vie, n'est-ce pas ? Je crois que ça fait partie de la vie de tous les jours. Tout le monde doit certainement avoir chacun son problème à régler. Qui finalement connaît le problème mieux que nous-mêmes ? Qui finalement peut connaître le problème qui connaît le problème qui vous affecte sous tous ses angles ? Eh bien, la personne elle-même qui a le problème. Lorsque moi, j'ai un problème, je connais mieux ce problème que n'importe qui. Je le connais sous tous ses angles, je le ressens, je le vis. Comment quelqu'un d'extérieur, si ce n'est pas bien entendu un grand sage, comment quelqu'un d'extérieur qui, lui, ne peut pas connaître le problème que moi, je le connais, comment peut-il m'aider ? À quoi ça sert finalement de lui demander conseil, comme le dit ici, là, le Pirkei Avot ? En vérité, celui qui répond à cette question, c'est Raphaïm de Vologine. Il répond très bien à la question. Il nous dit en vérité la chose suivante. Et c'est sûr que toi, quand tu as affaire à un problème, comme chaque personne dans le monde, n'est-ce pas, et que tu es confronté à un problème, c'est sûr que tu le connais mieux que n'importe qui. Mais ne crois pas que les gens qui sont autour de toi ne peuvent pas t'apporter quelque chose. Parce que même si ils ne connaissent pas le problème comme toi tu le connais, parce que c'est ton problème, c'est pas leur, et donc toi tu connais certainement le problème sous une beaucoup plus grande une perspective que ne le connaissent pas, de toute façon, eux, ils ont quelque chose que toi tu n'as pas. Ils ont une forme d'intelligence que toi, tu n'as pas. Non pas qu'ils soient plus intelligents que toi, mais toi, tu as une certaine intelligence, eux ont une certaine autre. L'un, par exemple, sent d'une manière générale les choses mieux que ce que toi, tu les sens. Un autre analyse mieux les choses que ce que toi, tu les analyses. Chacun, n'est-ce pas, avec ses particularités. Donc, finalement, même s'ils ne connaissent pas le problème comme toi tu le connais parce que c'est ton problème et pas le leur, ils ont une certaine forme de sagesse particulière à la leur qui, elle, peut avoir effectivement certains avantages que toi tu n'as pas, de même que le contraire est valable aussi. Et donc, ils peuvent, malgré tout, bien que ne connaissant pas le problème sous tous ses angles comme toi tu le connais, parce qu'encore une fois c'est ton problème, ils peuvent t'apporter un certain éclairage grâce à la sagesse qu'ils ont et que toi tu n'as éventuellement pas, dans la mesure où ils ont certaines qualités que toi tu n'as pas. Donc, ils peuvent t'aider ou vous aider à éclairer le problème sous certains angles, apporter un nouvel éclairage que vous n'avez pas vu. Et c'est cela le sens de la Mishnah chez nous. C'est pour ça que ça vaut la peine de demander des conseils aux gens autour de nous. Parce que plus on demande de conseils aux gens, plus ils pourront, de leur point de vue à eux, apporter un éclairage partiel, mais très partiel, mais un éclairage quand même, quelque chose que nous, on n'avait pas vu au départ. Et plus on demande, eh bien, plus on aura d'éclairage partiel, et tous ces éclairages ensemble, ça fera qu'on en aura finalement une nouvelle vue, une nouvelle manière d'aborder notre problème et peut-être de le résoudre. Alors évidemment, cela ne nous dispense pas de réfléchir, nous aussi, comment résoudre notre problème. Cela, c'est la première mitzvah. La réflexion, c'est la première chose que l'on doit faire. Évidemment, ça ne nous dispense pas de réflexion. Mais ce n'est pas parce que l'on réfléchit que l'on croit tout savoir et que l'on croit être dispensé, n'est-ce pas, de demander un conseil à l'autre. Il y a une forme d'anava, une forme de modestie qui fait que notre réflexion, ça n'est pas la fin du monde et peut-être que l'autre, même dans les conseils, peut nous apporter quelque chose, à condition, bien entendu, de ne pas demander à n'importe qui. Marbe tzedaka, marbe shalom. Celui qui amène, celui qui multiplie la tzedaka, qui donne autour de lui, qu'est-ce qu'il amène ? Il amène le shalom. Il amène la paix. On voit ici l'un des grands avantages de la tzedaka. Lorsque moi je donne de la tzedaka, je fais la paix autour de moi. Les commentaires nous donnent beaucoup d'exemples de la paix. D'abord, je fais que l'on m'aime et que l'on ne me déteste pas. C'est déjà une bonne raison de donner, donc je répands l'amour autour de moi. Je peux faire aussi la paix entre un homme et sa femme. Souvent, quand je vois, n'est-ce pas, la pauvreté, la misère, la vie difficile peut créer des problèmes de ménage. Donc, quand moi je donne à un couple ou à une maison ou à une famille de l'argent, alors j'aide à établir la paix entre l'homme et sa femme, j'aide un petit peu, même souvent beaucoup parfois, la paix des ménages. Et enfin, nous disent les commentaires, je fais la paix entre les pauvres, les Ani'im et Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il se pourrait que certains pauvres qui ont un niveau spirituel réduit puissent, à certains moments, parce qu'ils souffrent, n'est-ce pas, parce qu'ils souffrent de leur pauvreté, en vouloir, Dieu préserve, voir Hasve Shalom à Kadosh Baruch Hu. Alors moi, je ne dois pas dire, ces gens-là, c'est des rachats, je les abandonne, je dois les aider, et de cette manière, je fais la paix entre eux et à Kadosh Baruch Hu. Kanalo Torah, kanalo Chaya Olam Haba. Celui qui achète, kanoshem tov, kanalatsmo. Celui qui amène, qui achète un bon renom, il l'a acheté pour lui. Celui qui achète, qui acquérit la Torah, il a acquérit également le monde futur. En vérité, ces deux enseignements se ressemblent. On va vraiment les résumer parce qu'on est resté, on a déjà vu beaucoup d'enseignements ici dans cette Mishnah. Il y a une différence entre les biens matériels que j'acquéris et les biens spirituels que j'acquéris. Les biens matériels, autant je peux en acquérir, ils restent extérieurs à moi. Et donc, ça fait que quand la personne part dans l'autre monde, eh ben, elle laisse de côté tout ce qui est extérieur, donc les biens matériels. Les biens spirituels, comme par exemple le fait d'acquérir la Torah, ça fait partie intégrante de moi, ça devient partie intégrante de mon âme, de ma neshama. Et donc, quand une personne quitte ce monde-ci, elle quitte ça avec ses biens spirituels. Et c'est le sens ici de la Pirkei Avot qui nous dit que celui qui réussit à acquérir l'étude de la Torah, eh bien, il acquérit en même temps le monde futur. Ces biens spirituels qui font partie de nous-mêmes nous portent vers le monde futur. C'est aussi donc le sens de l'enseignement précédent. Celui qui a réussi à acquérir un bon renom, il l'a acquis pour lui. De quel bon renom on parle ici? On ne parle pas ici d'un super footballeur qui a une super réputation, qui s'est tapé dans un ballon. On parle d'un bon renom, d'un vrai renom, de celui qui est allé dans les voies de la Torah et qui a finalement une réputation authentique, la réputation qu'il mérite grâce à ses actions, grâce à ses mitzvot, grâce à son étude. Celui-là aussi, il achète donc ce renom, et ce renom n'est que pour lui, appartient à lui, devient partie intégrante de lui-même.